Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Et on va ouvrir une page de la Bible. Une page de la Bible dans le Nouveau Testament. Par une étude. Donc c'est une réflexion. Voilà. Qui nous amène, eh bien, à plus de connaissances de ce que Dieu veut nous enseigner pour étayer notre foi, la développer. Et ça s'appelle la connaissance, connaître. Pas une connaissance qui enfle, mais une connaissance dans la charité. Parce qu'elle doit contribuer à la gloire de Dieu, mais aussi à l'édification de nos frères, de nos sœurs. Et puis, également, sans oublier les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas encore Jésus. Eh bien, à le découvrir. Et l'apôtre Paul à cette parole dans les Corinthiens, je cite simplement, je vous donnerai le texte de référence ensuite, il dit ceci, il dira, mais car en Jésus, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les Corinthiens avaient cette particularité, c'est que c'était des gens qui véritablement étaient conscient de l'importance et de la richesse, du trésor que pouvait représenter la Bible, la parole de Dieu. Et Paul va leur rendre hommage en quelque sorte, il ne l'a pas toujours fait en toute chose pour eux. Mais il y avait quelque chose qui les caractérisait, ces chrétiens de Corinthe, c'est que ils avaient la richesse de la connaissance. Ils connaissaient. Ils connaissaient des choses qui sont révélés dans la Bible, des choses qui n'appartiennent pas à notre monde, parce que nous nous sommes en prise directe avec notre monde, le monde matériel, ce que nous voyons, ce que nous entendons. Mais il y a des choses qui viennent, eh bien, qui sont révélées par l'Esprit de Dieu. Et pour les connaître, pour en avoir, on pourrait dire le secret et la richesse, eh bien, il faut nous laisser enseigner. Donc, c'est une étude que nous allons voir. Et en raison de cela, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose que nous lisions dans le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux au chapitre 1er et au verset 4. Nous allons donc, eh bien, entreprendre cette réflexion qui va nous faire rentrer dans un monde qui est celui de l'invisible. Alors n'ayez pas peur. Mais un monde où il est question de la dimension céleste. Un monde dont la seule chose que nous connaissons, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, sans extrapolation. Alors voilà, donc Hébreux, chapitre 1er, verset 4. Il est question de Jésus. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » ou encore « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils » et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent ». De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Il y a un mot qui revient 5 à 7 fois, 8 fois peut-être dans ce que nous avons lu, c'est le mot ange. Vous l'avez remarqué. C'est certainement, eh bien, le passage dans la Bible où c'est mentionné, nous pourrions dire, eh bien là, âgée continue, si vous permettez cette expression un petit peu triviale. Mais c'est intéressant, justement, de pouvoir que le chrétien ait la connaissance de ce monde. On a souvent prêché sur l'enfer, sur la géhenne, sur des choses comme ça, qui fait partie d'une doctrine biblique, assurément, ce qu'on appelle la démonologie. Mais ce n'est pas de cela ce que je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler du contraire. Nous, nous sommes renfermés dans un corps sur la terre, dans un état corporel, dans une condition corporelle, et notre accès est très difficile pour nous imaginer. Alors, on a écrit beaucoup de choses sur les anges. On a raconté beaucoup d'histoires. On a enjolivé, on a rêvé, on a brodé. On a raconté tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'il est bon que nous nous calions sur ce que nous révèle la Bible. Paul le répète, vous avez la richesse de la connaissance et de la parole. C'est elle qui nous instruit. En latin, ange, angelus, en grec, angelo, et en hébreu, eh bien, malak. C'est le même mot. Et donc, il y a bien une réalité. Il y a une réalité de ce mot dans toutes les langues, et les langues antiques, les langues anciennes. Et figurez-vous que quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que les anges apparaissent près de ou plus de 350 versets, dans plus de 350 versets bibliques, donnant à chaque fois, eh bien, une révélation, une connaissance, des indications sur leur nature et leur rôle. La description la plus simple, c'est celle que nous avons choisie ce matin pour introduire notre méditation dans Hébreux, où il est dit ceci: « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Des esprits au service de Dieu. J'aimerais donner quelques orientations, quelques directions à notre réflexion de ce que la Bible nous dit sur les anges. D'abord, ce sont des esprits. Ne sont-ils pas tous des esprits? Donc, ce sont des esprits. Ce sont des êtres, contrairement à nous, des êtres incorporels. Nous nous sommes renfermés dans un corps. Nous sommes des esprits renfermés dans un corps, mais eux, ils sont libérés de la corporalité. Et cependant, dans la Bible, dans l'Ancien Testament particulièrement et dans le Nouveau Testament, ils sont capables de prendre une forme humaine dont l'homme n'est pas toujours à même de distinguer. On va voir un petit peu comment les choses se sont présentées et nous voyons que, eh bien, il y a là quelque chose de très intéressant parce qu'ils ont rempli une mission, ils remplissent encore une mission sans que les hommes véritablement puissent le comprendre. Vous vous souvenez, je cite, hein, je ne vais pas citer tous les versets puisque je vous ai dit qu'il y en avait à peu près 350. Mais pour nous donner quelques indications de l'histoire de Lot, quand il est descendu dans la ville ou dans les villes de Sodome et Gomorre, il nous est dit que là, eh bien, des hommes ont abordé cette ville. En réalité, c'était des anges que Lot ne pouvait pas discerner. Il n'a pas pu véritablement les identifier, mais ce sont des anges. Après, la suite nous le montre. Nous le montre à travers leur manifestation de puissance. Et nous voyons que il y a eu une forme humaine. Nous voyons que dans d'autres cas, par exemple, à la résurrection de Jésus, il y a eu une méprise. Et dans l'annonce que Jésus était ressuscité, eh bien, c'était aussi un ou deux anges qui sont apparus aux femmes. Dans le livre des Hébreux, il nous est dit également, à la fin du livre des Hébreux, le livre que nous avons ouvert il y a un instant, eh bien, que quelques-uns exerçant l'hospitalité, ont reçu des anges. Si c'est écrit, c'est qu'il doit y avoir quand même une réalité derrière. Ça n'a pas été écrit comme ça, simplement pour nous faire plaisir. Ils sont au même titre des créatures de Dieu, au même titre que nous. Ce sont des êtres qui ont été créés. Dans l'Épître aux Colossiens, alors je vais vous donner quelques versets, si ça ne vous dérange pas. On va pouvoir éventuellement tourner les pages de notre Bible, ou alors simplement vous écouter, moi je vous donne les références simplement. Dans le verset 16 du chapitre 15, il est dit ceci, chapitre 1, verset 16, « Car en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, créatures terrestres et créatures célestes, créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. » C'est pour Jésus. Et à ce moment-là, nous pouvons comprendre que tout est renfermé, soit dans un monde terrestre ou dans un monde céleste. Donc, créé par Dieu. Et ils ont probablement été les spectateurs de cette création. C'est le livre de Job qui nous dit qu'il y a eu un émerveillement dans le ciel devant tout ce que Dieu avait créé. D'ailleurs, Dieu le dira dans le livre de la Genèse. Quand, après avoir lancé l'homme, l'humanité dans sa carrière, avant le péché, il nous est dit que Dieu vit ce qu'il avait créé et il a posé une satisfaction sur son œuvre parce que tout était non pas bon, mais très bon. Après, tout a été gâché, naturellement, et on en connaît les raisons. Donc, ce monde humain, ce monde qui appartient au ciel, et notamment les anges, ont été créés par Dieu. Ce sont des êtres créés. Ajoutons à ceci, c'est que les anges sont des êtres moraux. Nous avons un corps, une âme, un esprit, mais ce sont des êtres moraux et spirituels, et ils ont été créés purs. Ils ont été créés saints. Alors, je fais une petite parenthèse pour ceux qui sont restés en l'état. Comprenez, parce que je vais vous expliquer qu'il y a eu, à partir du péché, de la séduction, de la chute de l'homme, et bien avant la chute de l'homme, dans le ciel, et bien là, véritablement, une chute, ou un conflit cosmique, qui a fait que une partie des anges sont restés dans l'intégrité de leur créateur et de leur création, et une autre partie a été complètement dévoyée, comme cela nous est rappelé dans Ésaïe, chapitre 14, dans Ézéchiel, chapitre 38, si ma mémoire est fidèle, et également dans d'autres passages de la Bible, où il nous est bien mentionné qu'il y a eu à ce moment-là une séparation. Et c'est à partir de cette scission, de cette division, qu'est né le monde angélique, enfin, il était déjà avant, le monde angélique était déjà avant, mais le monde ténébreux et diabolique. Ce sont des choses difficiles peut-être à expliquer, mais nous allons essayer de les saisir. C'est ce que j'explique à travers ce choix des anges, dans cette capacité d'être restés fidèles à Dieu pour une grande partie, puisqu'il nous est dit que ils sont des myriades et des myriades, mais il y a aussi d'un autre côté cette capacité d'aspirer au mal et de faire le mal. Le livre de Jude aussi nous parle de la chute d'une partie des anges. Et ils seront jugés. Et vous savez par qui ils seront jugés? Ils seront jugés par l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 3. Nous jugerons les anges, mais pas les anges restés dans la perfection, les anges déchus. Parce qu'ils n'auront pas de possibilité, ceux-là, d'accéder au salut de Dieu qui est réservé qu'à l'humanité, aux hommes qui se repentent et qui, croient en Jésus-Christ. Donc, vous avez, à partir de cette création angélique, une bifurcation d'une partie, c'est-à-dire, d'un côté les anges qui sont restés fidèles et ceux qui ont été dévoyés, que l'on appelle les démons avec à leur tête leur chef, Satan. Les anges sont plus grands que les hommes. Mais attention, ils sont plus grands que les hommes, ils sont au ciel, nous sommes sur la terre. Et ils sont puissants sans être omnipotents. C'est un terme théologique qui veut dire tout-puissant. Dieu est tout-puissant, mais les anges ne sont pas tout-puissants. Donc ils sont supérieurs à nous, dans cette conception, dans cette vision. Ils sont sages, mais ils ne sont pas omniscients, ils ne savent pas tout. À ce titre, ils sont comme nous. Ils sont rapides. C'est le livre de Daniel qui nous dit au chapitre 9, verset 21, dans ce conflit qu'il va y avoir révélé par le prophète Daniel, que un ange, Michaël, au moment de l'offrande du soir, va venir dans un vol rapide. Alors, ce sont des données que je vous livre comme ça, que vous pourrez retrouver si vous voulez faire une étude sur le monde angélique. Les anges ne peuvent pas mourir. Ils sont dans une autre dimension. Dans Luc, chapitre 20 et verset 36, il nous est bien affirmé justement cette affirmation. Alors, Luc, chapitre 20 et verset 36, il est dit de cette manière, en parlant des chrétiens, à la résurrection, ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu. Donc nous sommes comparés aux anges parce qu'après la résurrection, nous ne mourrons pas. Nous ne pourrons plus mourir comme les anges, semblables aux anges. C'est une présentation qui a sa raison d'être. Seul Dieu est immortel et comme les autres créatures, anges et hommes, notre vie dépend uniquement de Dieu, et c'est dans la foi, c'est dans notre acceptation de Jésus-Christ que notre vie, qui est une vie éternelle, donc elle n'aura pas de fin, mais dans une destination qui sera la félicité, qui sera véritablement, eh bien, la dimension de l'éternité, une dimension céleste. Jésus nous dit que les anges ne se marient pas, ils sont pas comme les hommes. Qui prennent des hommes, qui prennent des femmes, voilà, se marient. Donc, ce sera une autre dimension que notre condition d'homme. La Bible nous dit également que les anges vivent au ciel. Ils sont là dans cet espace qui est infini pour nous, naturellement, qui sommes dans une dimension, nous, finie. Mais eux, ils sont dans cet espace. C'est ce que nous dit également Matthieu, chapitre 22, et Éphésiens, chapitre 3. Les anges sont une race dans la création de Dieu distincte de la race humaine, et ils ne sont pas, selon certaines théories religieuses, ils ne sont pas des êtres humains glorifiés après leur mort, puisqu'ils ne meurent pas. Et il y a des doctrines, même dans le christianisme, qui font croire que finalement, et nous serons des anges. Les hommes sont les hommes seront glorifiés par leur foi en Jésus-Christ, à la résurrection, mais nous ne serons jamais des anges. Les anges sont les anges, et les hommes sont les hommes. Mais nous serons des hommes glorifiés. Il y a quelque chose de tout à fait particulier. Il y a un texte qui éclaire la situation, c'est dans Matthieu, chapitre 22, verset 30, où ce verset nous dit que les humains seront comme des anges. Ils ne seront pas des anges, ils seront comme semblables. Donc nous resterons pour l'éternité dans notre salut et dans la félicité du ciel. Eh bien, nous serons glorifiés, mais nous ne serons pas pour autant des anges. C'est un terme affectueux que nous employons pour ceux qui sont morts quelquefois. On le trouve sur les pierres tombales, devenu un ange. Ben non. Ça, ce sont des déviations de la doctrine chrétienne. Et on comprend que s'apprêter à caution et s'apprêter à toutes sortes d'interprétations. Bien qu'apparaissant souvent dans l'Ancien Testament, un mot revient très souvent, c'est l'ange de l'Éternel. Vous avez entendu? Ça revient très souvent. Qui est-il? Eh bien, l'ange de l'Éternel, nous le voyons cité très souvent dans la Bible, dans le livre de la Genèse, dans le livre des juges, pour nous montrer que Jésus n'est pas un ange. Nous l'avons lu dans notre texte, supérieur aux anges. Aucun nom ne peut ressembler au nom de Jésus. Le nom de Jésus est unique, et donc Jésus n'est pas un ange, et de par sa nature divine, il leur est supérieur. C'est ce que nous avons lu. Mais néanmoins, l'ange de l'Éternel, c'est quelque chose. C'est une anticipation du Fils de Dieu, de Christ, venu sur la terre. C'est pourquoi il est appelé l'ange de l'Éternel. Et je voudrais donner une complémentarité sur le sujet. L'ange de l'Éternel tient une place particulière dans l'Ancien Testament. On ne le retrouve pas dans le Nouveau Testament. L'ange de l'Éternel parle comme Dieu lui-même parle. Il s'identifie à Dieu. De plus, il se laisse adorer. Le nom de Dieu est en lui. Quelques exemples pour étayer tout ça. Quand Agar s'enfuit dans le désert, c'est l'ange de l'Éternel nommément qui lui fait la promesse qu'il y aura une postérité pour elle. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est encore l'ange de l'Éternel qui va parler à Saraï, qui deviendra plus tard Sarah, pour la promesse d'un enfant, le fils de la promesse. C'est également l'ange de l'Éternel qui retiendra la main d'Abraham lorsqu'il portera, il élèvera la main avec le couteau pour sacrifier son fils Isaac. L'ange de l'Éternel parla et lui dit « Arrête, je sais que tu as confiance en moi. » En moi, en Dieu, parce que c'est la même. C'est l'ange de l'Éternel qui apparaît également à Moïse au buisson ardent, sur le mont Horeb. C'est aussi l'ange de l'Éternel qui appelle Gédéon, vaillant héros, c'est toi que je choisis pour délivrer le peuple d'Israël de la main de Madian. Surprise. L'ange de l'Éternel se laisse adorer par Josué, juste avant la bataille de Jéricho, où un ange, où il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut avec une épée nue à la main pour lui communiquer finalement les instructions dans cette conquête, dans cette victoire extraordinaire que sera l'effondrement des murs de Jéricho. L'ange de l'Éternel porte le nom de Dieu. Et dans ce texte, après avoir donné les 10 commandements, Dieu va révéler à Moïse par cette apparition de l'ange de l'Éternel et en lui donnant une particularité pour que Moïse le comprenne bien, il dira « car mon nom est en lui ». Alors, on pourrait passer sur nombre d'exemples de cette manière, mais c'est une réalité de la Bible, une réalité de l'Écriture sainte. Que vous dire encore? Il y aura encore beaucoup de choses naturellement. Je voudrais ouvrir une nouvelle porte maintenant, après avoir parlé finalement de ce que sont les anges, de leur classification ou tout simplement de la hiérarchie. Vous savez qu'en démonologie, eh bien, il y a Satan avec tous ses noms, et il y a des esprits méchants, des esprits de ténèbres, des esprits impurs, etc., des démons, etc. Il y a une hiérarchie. Comme il y a une hiérarchie dans le monde angélique, comme il y a une hiérarchie également dans la théologie, c'est-à-dire l'étude de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors on va voir, ce sont des noms que vous avez lus dans la Bible et qui nous montrent bien qu'il y a là quelque chose de tout à fait particulier, qui nous révèle plusieurs types d'anges ou de créatures célestes. Il y a d'abord les anges, ils sont très nombreux, puisque Jésus en fera référence au moment où il a été saisi dans le jardin de Gethsémané et qu'il a arrêté l'impétuosité de Pierre, qui a quand même coupé l'oreille de Malchus, et qui parlera finalement à cette troupe venue le faire prisonnier de nuit. Il dira « Mais ne pourrais-je pas invoquer mon Père dans les cieux, qui est capable pour me délivrer, eh bien de réunir 12 légions d'anges, imaginez-vous ce que ça représente. » C'est quelque chose de considérable. Donc, ils sont très nombreux. Dans cette hiérarchie, il y a d'abord les archanges. Les archanges Nous trouvons cette référence dans Thessaloniciens. Alors, à travers un texte que vous avez certainement étudié, lu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, et au verset 16, il est dit tout simplement cette parole, à la fin des temps. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est un texte parmi bien d'autres. L'étymologie du mot archange fait allusion à un ange qui a une place au-dessus des autres. Il y a là une hiérarchie à considérer, un rôle de chef parmi les anges, archange. Le texte de l'Apocalypse 12:7 nous montre l'archange Michel menant d'autres anges à la guerre. Si vous vous souvenez de l'étude que nous avons faite sur l'Apocalypse, eh bien voilà la référence, entre autres, il s'appelle Michel. Il est le seul archange à être cité dans la Bible. J'aurais quand même le signaler. Ensuite, il y a les chérubins. Alors ça va vous rappeler des souvenirs. Genèse chapitre 3 et verset 24. Au moment de la chute, il nous est dit que Dieu a empêché l'homme finalement de retourner dans le jardin, dans le paradis, paradis terrestre. Et il a mis tout simplement, eh bien là, des chérubins avec des épées flamboyantes. Ça, c'est les rapports qui nous sont donnés. Ils apparaissent dans le tabernacle au-dessus de l'arche de l'Alliance. Un d'un côté, l'autre de l'autre, avec les ailes déployées. C'est pas trop compliqué, j'espère. Hein? Vous me répondez pas. Ils sont dans le temple comme trône de Dieu ou encore comme gardien du jardin d'Éden, ce que je viens de vous citer. Ils sont toujours mentionnés en rapport avec la sainteté et la gloire de Dieu. Ça, c'est le rôle particulièrement des chérubins. Avant la chute, parce qu'il faut faire référence, je vous parle de l'angéologie, c'est-à-dire la doctrine et de l'étude des anges, mais je suis obligé quelque part de faire aussi quelques incartades dans le monde de la démonologie. Parce que c'est deux mondes différents, mais on s'aperçoit qu'à la chute, Satan était parmi les chérubins. Dans Ézéchiel chapitre 28, il nous est dit « Tu étais un chérubin resplendissant. » Lucifer, ange de lumière. On peut le lire, Ézéchiel. Je vous ai prévenu, c'est une étude. Chapitre 28, versets 14 à 16. Il est dit cette parole. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité était trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Voilà l'autre référence. Donc, nous apercevons que le contraire de ce monde angélique, le monde ténébreux, diabolique, Lucifer faisait partie des chérubins. Il y a les séraphins. Quel beau nom! Les séraphins dans Ésaïe, et là c'est intéressant parce qu'ils sont nommés qu'une seule fois dans la Bible. Ils sont mentionnés qu'une seule fois. Ils sont proches du trône de Dieu, annonçant leur rôle est d'annoncer la sainteté et la gloire de Dieu. Si je vous dis Ésaïe chapitre 6, vous allez comprendre tout de suite parce que c'est un texte clé. Et au verset 1er, il est dit ceci. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissant le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, c'est Esaïe qui parle, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, ceci a touché mes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il est question des séraphins. Et puis il y a un terme peut-être beaucoup plus général, ce sont les êtres vivants dans le livre de l'Apocalypse. Ça vous dit quelque chose ? Ils reviennent dans Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 15, et ils sont parfois assimilés aux séraphins et aux chérubins, ils sont à la base eh bien, de quelque chose de particulier, une classe particulière. Ils apparaissent de nombreuses reprises dans le livre donc de la Révélation autour du trône de Dieu. On l'avait expliqué ça dans l'étude. Hein. Ils sont autour du trône de Dieu, proclamant sa gloire et sa sainteté, et participant particulièrement au jugement venant sur le monde. Je ne dis pas au jugement sur l'Église. L'Église est affranchie du jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je tiens à le rappeler. Et ça, à chaque fois que nous avons fait, pendant 24 études, le livre de l'Apocalypse, je dis bien que l'Église est déjà en dehors de tout ça. Vous avez vu ce qui s'est passé le 21 décembre, là, le tremblement de terre, la fin du monde et tout ça, hein? Voilà. Bon, alors faut pas raconter des histoires, vous comprenez? Faut revenir à ce que nous enseigne la Bible. Mais ils auront un rôle dans le jugement. Ces êtres vivants. Et puis le terme que nous avons utilisé tout à l'heure dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, ce sont les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Le terme qui est employé par domination, autorité, évoque simplement des êtres puissants et revêtus d'autorité. Ils sont quelquefois utilisés pour désigner les anges déchus. Je cite ce que Paul enseigne dans Éphésiens chapitre 6, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des autorités, des dominations et des esprits méchants dans les lieux célestes. Mais il y a ce côté mauvais qui est bien classifié, mais il y a également ces autorités, ces dominations qui appartiennent à Dieu et qui font partie justement de ce monde des anges. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est que nous n'avons pas à les adorer. Ce sont des créatures comme nous, dans une autre dimension, avec un autre monde, mais nous n'avons pas à les adorer. L'ange de l'Éternel se laisse adorer par Gédéon, par Josué, par d'autres qui vont là, eh bien, faire un autel, y allumer le feu, faire un sacrifice. Mais l'ange de l'Éternel, c'est Christ. L'ange de l'Éternel, c'est une préfiguration du Sauveur, du Rédempteur, du Fils de Dieu, du Rédempteur. Et nous n'avons pas à adorer les anges. Quelle déviation dans l'Église chrétienne! Que d'histoire! Alors, si vous avez regardé les albums d'Hergé, Tintin et Milou, vous avez Capitaine Haddock, il a... ou le petit chien, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Milou, hein, il a toujours un ange gardien d'un côté qui fait d'un côté, d'une manière ou d'une autre, hein, celui de droite et celui de gauche. Alors ça, c'est de la pure imagination, c'est de la fiction, c'est ça peut rien avoir. Mais nous n'avons pas à nous laisser conduire et à faire, comme Paul le dira dans Colossiens, de ne pas nous laisser séduire sous des aspects d'humilité et de modestie à un culte des anges. Parce que là, à ce moment-là, nous tombons dans le mysticisme, dans l'ascétisme, dans toutes sortes de divagations de l'esprit qui nous amènent non pas à adorer Dieu, mais qui nous amènent à adorer des démons. Donc à tomber dans l'idolâtrie et à tomber dans l'occultisme. Attention, ça c'est quelque chose d'important. Et il y a des chrétiens qui se sont laissés séduire. Combien il y a eu ces derniers temps de bouquins sur les anges, de révélations du ciel et ceci et cela. Vous avez remarqué ce qu'il nous est dit ? Je le lis. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ? envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, et non pas nous confondre dans toutes sortes de philosophies ou de théologies, chrétiennes soient-elles. Qu'est-ce qu'on a pu entendre ? J'ai eu quelquefois l'occasion d'avoir de ce genre de bouquins, de livres, qui sont véritablement des déviances de l'esprit des gens. Alors on ne les adore pas, on ne leur rend pas un culte. Et puis une dernière chose que je voudrais placer devant vous dans cette étude, les anges remplissent une fonction. Alors on va en faire quelque peu, le commentaire rapide. Ils ont été chargés, ils sont chargés encore d'apporter un message de la part de Dieu. J'en prends à témoin Philippe l'évangéliste. Je lis. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Connaissez le texte. Lui, Philippe, qui avait été mandaté pour faire un formidable réveil à Samarie où il y avait des centaines et des milliers de personnes qui se convertissaient à son message, un ange du Seigneur va lui apparaître en disant « Maintenant laisse toute cette multitude et tu vas aller prêcher l'évangile à un seul homme. » C'était l'Éthiopien. Il nous est bien dit un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Sous quelle forme? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il a obéi Philippe. Il est là pour nous conduire. Est-ce que ce n'est pas Joseph, le père nourricier de Jésus, qui a eu la révélation alors qu'Hérode voulait détruire l'enfant Jésus naissant? Où un ange va lui apparaître pour lui dire « Fuis maintenant avec ta femme et le petit en Égypte, pour qu'il soit hors de danger. » Donc il conduit, ils conduisent, ou nous encourager. Quand Paul est dans la tempête, sur le navire, et que là tout le monde a perdu l'espoir de sauver sa vie, alors que le bateau est en train de faire naufrage, il nous est dit « Mais cette nuit même, un ange du Seigneur m'a révélé que nous arriverions eh bien là, au terme de notre épreuve, et que nos vies seraient sauvées, le bateau sera cassé. » C'est comme ça qu'ils sont arrivés dans l'île de Malte. Révélation. Je dis bien, les anges sont chargés d'apporter un message. Et le rôle de messager correspond à l'étymologie du mot « ange », parce que le mot « ange », ça veut dire « messager ». Les anges ont aussi un service à rendre, ils adorent. Ouais. Dans le psaume 148, il nous est dit « Louez-le, vous tous ces anges ». Alors imaginez-vous que lorsque nous serons dans la dimension céleste pour l'éternité, avec les séraphins, les chérubins et toutes les dominations angéliques autour du trône de Dieu, ce sera une louange universelle dont nous avons certainement peu la pensée de ce que ça peut représenter. Les anges ont été envoyés, sont envoyés pour protéger les enfants de Dieu, les chrétiens. Est-ce que ce n'est pas écrit dans le psaume 32, me semble-t-il, ou le psaume 34 plutôt, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Nous avons tous fait des expériences où nous avons été arrêtés au dernier moment. Moi, je sais que j'ai une expérience, je l'ai compris après ma conversion. Mais je suis tout à fait convaincu qu'il y a eu quelque chose dans ma vie. Je ne peux pas dire que j'ai eu une apparition d'un ange, hein, mais il y avait une main qui m'a sauvé alors que j'étais en danger de mort. Je l'ai compris après. Car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, le psaume 91. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi il ne t'arrivera rien du tout. Ça c'est le privilège des enfants de Dieu. Il enverra ses anges. Il ordonnera ses anges. C'est l'histoire de Lot qui a été garantie quand l'ange lui dit « Mais vite, quitte la ville parce qu'il va y avoir le feu qui va descendre. » C'est un ange aussi. Dans bien des domaines. Dans Daniel, me semble-t-il, quand il est précipité dans c'est pas la fournaise ardente, qu'est-ce qui lui arrive aussi à Daniel? Comment? À la fosse aux lions. C'est aussi un ange qui va apparaître. Et le roi de Nebuchadnezzar, quand il va voir que là, il y a un personnage lumineux, et il n'y aura aucun dommage pour Daniel. Les anges sont également envoyés pour exécuter la volonté de Dieu et ses jugements contre les individus et les nations. C'est toujours eux. L'histoire de Lot. Nous allons détruire ce lieu, l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Genèse chapitre 19. Ils sont aussi envoyés pour participer activement aux événements liés au retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus revient. Lors de l'enlèvement de l'Église, Thessaloniciens chapitre 4. Lors de la grande tribulation pour protéger les enfants de Dieu, Apocalypse chapitre 7. Lors de la parousie, c'est-à-dire la deuxième phase du retour de Jésus-Christ pour juger les nations, pour lier le diable avant le millénium, il nous est dit qu'un ange prit une chaîne et lia Satan pour 1000 ans. Lors du jugement final, dans la Nouvelle Jérusalem, les anges seront présents. Ils sont également intervenus dans de nombreuses reprises lors du ministère terrestre de Jésus pour annoncer sa naissance. Un ange qui s'appelle Gabriel s'est tourné vers cette jeune fille qui s'appelait Marie et lui dit « Tu enfanteras un fils ». Ils interviennent également dans la tentation au désert alors que Jésus est soumis à une pression terrible pendant 40 jours, mais ayant vaincu cette tentation, il nous est dit que les anges l'entouraient et le servaient, étaient auprès de lui. Dans le jardin de Gethsémané, alors que Jésus était en train de transpirer des grumeaux de sang et qu'il disait à son père, mais éloigne de moi cette coupe, eh bien, il nous est dit qu'un ange, alors qu'il était dans cette agonie, angoisse, un ange est venu le fortifier. Lors de la résurrection, à plusieurs reprises, dans le commentaire des évangiles, il nous est dit, mais où cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? À plusieurs reprises, hein. Lors de l'ascension, il nous est dit que les hommes se posaient la question parce qu'ils ont vu Jésus monter au ciel. Un ange est venu leur dire, mais celui qui est monté au ciel, vous le verrez revenir de la même manière qu'il est monté. Les anges? Actes chapitre 10. En plus de leur rôle, ou de leur mission particulière, nous savons que les anges sont les spectateurs attentifs et émerveillés des actions de Dieu lors de la création. Job chapitre 38, je vous l'ai cité tout à l'heure. Ce monde céleste s'extasie devant les capacités, le génie divin, ou lors de l'exécution du plan de salut, à tel point que dans 1 Pierre, il nous est dit ces paroles, parce que je crois qu'elles sont quand même importantes de citer. 1 Pierre chapitre 1 verset 12, il nous est dit que les hommes de tous les temps, les prophètes de l'ancien temps, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Vous voyez, ils ne savaient pas tout, les anges. Donc, ils n'étaient pas omniscients, ils n'avaient pas la connaissance totale. Mais déjà, ils accompagnaient ces hommes de foi qui ont prophétisé, les grands Daniel, ou Moïse, ou Abraham, et tout ça, et ils pressentaient qu'il y avait quelque chose, et ils s'émerveillaient de ce plan de salut qui allait venir. Les gens sont au service de Dieu, nous l'avons lu, Hébreux, verset 14. Ils exécutent ses ordres, ils exécutent ses jugements. Ce sont eux qui exécuteront les jugements de Dieu, donc dans l'Apocalypse, nous l'avons dit. Ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente. Ils louent et ils adorent Dieu. Mais ils servent aussi, finalement, les enfants de Dieu que nous sommes. On a parlé des messages qu'il leur donne pour les conduire. Il nous encourage et nous soutient dans les temps difficiles. Il nous délivre également de certains dangers. Il pourvoit nos besoins physiques. Il nous est dit qu'un ange est venu auprès d'Élie lorsqu'il était en pleine dépression et qu'il était poursuivi par Jézabel qui voulait le tuer. Connaissez l'histoire? Et il nous est dit que c'est un ange qui lui a porté de la nourriture, le pain des forts, le pain de Dieu qui lui a permis de marcher, imaginez-vous, hein, 40 jours et 40 nuits, 40 jours et 40 nuits après. C'est un ange qui est venu le réconforter, Élie. Il prend soin de nous au moment de la mort. Quand Jésus nous met cette parabole devant les yeux ou à nos oreilles, de l'histoire du pauvre Lazare et du mauvais riche, il nous est dit que les anges le transportèrent dans le sein d'Abraham. Ce sont les anges. Et moi, je crois que la mort d'un enfant de Dieu, lorsque nous partons, parce que nous partirons à moins que Jésus vienne nous enlever, dans le dernier moment, eh bien, c'est les anges qui emmènent. Les uns vont vers le bas et les autres vont vers le ciel. Les anges, ouais, au moment de la mort. Les anges nous annoncent l'avenir. C'est ce qui se passe pour le grand prophète Daniel. Daniel a une vision de son temps, une vision pour les temps qui seront après lui, mais une vision pour notre temps également. Parce que quand vous regardez le livre de Daniel, c'est quand même l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Hein. Et nous voyons qu'il est accompagné justement par ces révélations angéliques. Et puis une dernière chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est que dans la Bible, nous remarquons que ce ne sont pas les anges qui annoncent l'évangile aux hommes. Il aurait pu le faire, vous rendez compte? Ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Que les anges nous apparaissent, les gens se mettent tout de suite à genoux et disent, ben voilà, nous acceptons, nous nous repentons. Mais c'est des hommes. Donc c'est pas les hommes, c'est pas les anges qui sont chargés d'annoncer l'évangile, c'est nous. Mais par contre, ils nous accompagnent dans cette charge. Et dans cette mission, c'est formidable. Parce que Jésus, l'ange de l'Éternel, s'est fait homme comme nous pour nous montrer l'exemple. Et de la manière dont il a vécu, de la manière dont il a proclamé le royaume de Dieu, la manière dont il a pris sur lui, eh bien c'est à nous maintenant, finalement, de pouvoir être ses ambassadeurs, le sel de la terre et la lumière du monde. Ce sont pas les anges, mais ils sont là. Ils sont là pour nous aider dans le service de Dieu. Et nous pouvons le dire. Moi, je suis, ma foi, elle est fondée sur Jésus, hein, pas sur les anges. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand on voit certaines coïncidences, il n'y a pas de hasard, certains événements providentiels, je me dis, mais Seigneur, tout a été préparé. Et cette préparation, je crois que c'est le Saint-Esprit, naturellement. Mais il y a aussi le truchement des anges. C'est quelque chose qui nous montre que la tâche du salut, la prédication est réservée à l'Église. Mais en tous les cas, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous orienter, ils peuvent nous diriger. Et puis je termine par une dernière chose, c'est que les anges auront un rôle lors du retour de Jésus-Christ, puisqu'il nous est dit « Le Seigneur, à la voix d'un archange, descendra du ciel ». Et nous voyons que ils vont l'accompagner dans cet événement. Et quelle vision nous aurons à ce moment-là, je ne peux pas vous dire. Je ne le sais pas, personne ne le sait, ni quand, ni comment. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous serons environnés de ce monde. Cette doctrine dont je viens de vous toucher en deux mots, il y aurait tellement de choses encore à dire. Moi, ça me dépasse. Mais cette doctrine, qui est une doctrine biblique, s'appelle l'angéologie, c'est-à-dire l'étude des anges. Alors, on reste sur cela, et une chose qui est certaine, c'est que nous voulons véritablement bénir Dieu, parce qu'il est le créateur de tout, dans le ciel et sur la terre. Mais toute autorité, toute seigneurie, toute royauté revient à Jésus. Ouais, revient à Jésus. Alors que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficile, parce qu'elles n'appartiennent pas à notre monde. Et la seule chose, Seigneur, que nous avons besoin, c'est de nous en tenir à toi, ce que tu nous dis, et non pas nous livrer à toutes sortes de rêves, de rêveries, et de nous laisser emporter par l'imagination, notre imagination. Seigneur, il y a là, en effet, Seigneur, une véritable étude, une doctrine, qui s'appelle tout simplement, eh bien, le monde des anges. Mais tout cela, Seigneur, eh bien, est enseigné est expliqué. Et contenu dans cette parole, soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Seigneur, nous voulons te demander dans ta bonté, dans ta fidélité, de bien vouloir nous tenir, Seigneur, dans des conditions qui nous permettent d'ouvrir notre cœur et de nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Ta parole est la vérité, Seigneur, et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est lui qui nous rappelle les choses, qui nous donne, Seigneur, de rester véritablement dans cette dimension, cette limite que tu nous as tracée. Seigneur, merci pour le ministère des anges. Merci d'avoir créé ces créatures avec lesquelles nous partagerons l'éternité. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, parce que cette histoire nous rappelle aussi, Seigneur, la tragédie de cette division dans le ciel avant que même l'homme soit créé, qui a fait, Seigneur, qu'il y a en effet des puissances et des autorités qui sont là, Seigneur, fidèles à Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, dans la lumière. Et qu'il y a aussi, Seigneur, eh bien, cette part qui s'est détachée à travers ce monde satanique, ce monde de l'occulte, ce monde de ténèbres, qui est en opposition à Dieu et qui est en opposition à la créature de Dieu que nous sommes, pour essayer de nous confondre et nous amener, Seigneur, à dévier l'adoration que nous devons à Dieu et à Jésus-Christ seul, pour nous amener à adorer des idoles, pour nous amener à adorer, Seigneur, faussement, pour nous amener à nous tromper, Seigneur, sur les réalités. Et nous croyons qu'il y ait une chose que tu as voulu nous montrer encore ce matin, c'est que, en effet, comme les Corinthiens, nous sommes appelés, Seigneur, à avoir cette richesse et à la garder de la parole et de la connaissance, de l'enseignement qui nous est donné dans l'Évangile. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans ta bonté, dans ta fidélité, bénis-nous et donne-nous d'avoir une leçon saine et sainte de ces choses qui n'appartiennent pas encore, Père éternel, à notre dimension, mais dans lesquelles nous sommes, eh bien, promus, Seigneur, à rentrer à un moment ou à un autre, parce que nous régnerons avec Christ et avec, selon l'expression de l'Évangile, avec les saints anges de Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.